Bonjour l'espoir, ça va bien? Boy, ça va bien? J'espère, on fête Pâques cette semaine. Mes amis, c'est extraordinaire. Avec la fin de la neige, je le déclare. C'est bon? On est d'accord? Ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Pasteur Michel l'a mentionné tout à l'heure. C'est un moment spécial parce que Jésus fait son entrée en scène littéralement. Il fait son entrée en scène. Les gens qui sont là ne savent pas trop ce qui se passe, ne comprennent pas trop ce qui est en train de se produire, mais ils font des associations avec des prophéties. Et comme Jésus fait la mise en scène, on va revenir sur ça dans un instant, bien spontanément, la foule qui a entendu parler de Jésus le prophète, probablement que plusieurs d'entre eux l'ont vu faire des miracles. Donc, ils savent que c'est un homme extraordinaire, c'est un être extraordinaire, commence à crier et à célébrer en disant « Enfin, enfin, le Sauveur, le Messie qui nous est annoncé, est-ce que ce ne serait pas lui? » Et il se lance vraiment dans la célébration. C'est une entrée triomphale, une entrée extraordinaire. Ça avait été annoncé par les prophètes. À l'époque, les Juifs sont sous domination romaine. Alors, ça a une connotation politique extrêmement forte. Parce que si Jésus est vraiment le Messie attendu, si c'est vraiment le roi, ça veut dire qu'enfin, on va être libéré politiquement. Et pendant que j'étais en train de me préparer pour la prédication, je me disais, quelle ironie, n'est-ce pas, qu'on soit au dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus, les Juifs attendent une libération politique pendant que les Canadiens se cherchent un sauveur pour les sauver d'un autre empire dirigé par un autre empereur. C'est quand même drôle. L'ironie de Dieu. Le cœur humain cherche toujours un sauveur. On veut toujours être sauvé de quelque chose, sauvé d'une menace, qu'elle soit politique, climatique, biologique, économique, personnelle. On cherche toujours un sauveur. Mais Dieu sait, alors que les Juifs sont là et disent « Enfin, enfin, on va être libérés des Romains. » Dieu sait qu'en réalité, ce dont nous avons besoin d'être sauvés, beaucoup plus que quelques menaces physiques, humaines que ce soit, c'est d'être sauvés de nous-mêmes en réalité. Amen? On a beaucoup plus besoin d'être sauvés de nous-mêmes et de reconnaître que Jésus-Christ est sauveur et roi. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin alors qu'on veut adorer cette semaine. On veut célébrer ensemble Jésus-Christ, notre roi, notre sauveur. Allons dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer. On veut joindre nos voix, comme on vient de le faire à travers le chant, à ces milliers de personnes qui ont crié « Hosanna! Hosanna! Au Fils de David! » Seigneur, on veut joindre nos voix, nos cœurs, parce que nous avons reconnu que tu es le roi, tu es le sauveur. Et on te prie, Seigneur, de préparer notre esprit à recevoir ta parole ce matin. Que ta parole soit reçue comme un acte d'adoration pour nous, Seigneur. Que cette semaine dans laquelle on entre soit vraiment une semaine d'adoration, de recueillement, de méditation, de proclamation aussi. Seigneur, on veut proclamer avec cette foule « Hosanna au Fils de David ». Oui, le Sauveur de l'humanité est venu. Et Seigneur, on veut l'annoncer cette semaine. Père, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. On veut mettre de côté les soucis, les tracas, les inquiétudes et t'amener toutes nos peurs, toutes nos requêtes, Seigneur. Placer notre espérance en toi. Parle-nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande, Père. Amen.
Bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin se trouve dans Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent envoyés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera partir. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. »
Merci, Danny. Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà envisagé Dieu comme un metteur en scène. Dieu est vraiment un metteur en scène hors pair. Il n'y a personne qui sait comment faire des mises en scène comme Dieu. On parlait hier, on était dans le cours de prédication biblique, puis je pensais simplement à un coucher de soleil. Coucher de soleil, à quel moment est-ce qu'il est le plus beau? C'est vers la fin du coucher de soleil. Dieu fait des mises en scène, il crée une atmosphère, et là, plus le soleil descend, souvent, plus il est chaud, plus les couleurs sont chaudes, ça devient extraordinaire. Hier, je me retournais à la maison, puis dans mon rétroviseur, j'avais le coucher de soleil qui était jaune, qui portait sur l'orange, puis écoutez, il fallait que je me concentre pour regarder en avant, je voulais juste comme essayer d'attraper le soleil. Dieu est un metteur en scène extraordinaire, on le voit à travers toute la création. La création n'avait pas besoin d'être belle pour être fonctionnelle. Mais Dieu est parfait. Dieu est parfait dans son amour, dans sa beauté, dans sa création. Et donc, Dieu fait tout à perfection. Dieu est le metteur en scène parfait. Et ce matin, on parle de royauté, parce que Jésus va révéler à la foule qu'il est le roi des Juifs. En fait, tout ce qui va se passer lorsque Jésus va être crucifié, et ça va être écrit « Voici le roi des Juifs », mais c'est Jésus qui l'a provoqué. Jésus s'est assuré que toute la ville sache que le roi des Juifs entre dans la ville. Il est allé chercher les prophéties. Il les a mises en scène. C'est littéralement ça qui se passe. Et lorsqu'on pense à royauté, bien, on pense à autorité, mais on pense aussi à décorum. Hein, lorsqu'on parle de majesté, on parle de majestueux. Ça va ensemble. Avec l'autorité d'un roi, vient le décorum autour du roi, et c'est littéralement ce que Jésus est en train de faire ici. La foule s'attend à un autre roi, on va voir ça ensemble, mais il est vraiment le roi. Jésus accomplit vraiment les prophéties. Jésus est digne de tous les hosanna qui ont été criés ce jour-là. Même si les gens n'étaient pas conscients de ce qu'il faisait, même si quelques jours plus tard, peut-être cette même foule-là va crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Jésus est tout de même digne. Amen. Il est digne de tous les hosanna qui sont déclarés cette journée-là. Il est digne de tous les hosanna que les chrétiens chantent depuis 2000 ans et que nous chanterons dans l'éternité. Amen. Il est digne de tous ces hosanna parce qu'il est vraiment, vraiment le Sauveur et le Roi. Ce matin, voici comment je résume l'exposé biblique. Jésus est le Messie accompli. Il est complet, il est entier, il est digne de notre adoration. Et même dans nos malentendus, parce qu'il y a un énorme malentendu cette journée-là, Dieu accomplit toujours ses desseins pour notre salut. Il est souverain. Premièrement, la souveraineté de Dieu. Jésus, l'agneau, est le roi prévu par les prophètes. Jésus et sa souveraineté. Regardez les versets 1 à 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus est un Messie souverain. Il orchestre, il est le chef d'orchestre. J'ose dire qu'il est le chef d'orchestre de sa propre crucifixion. parce qu'on est à quelques jours. Là, c'est l'exaltation, mais comme on vient de le dire, probablement cette même foule-là va crier très, très bientôt, « Crucifie-le! » Mais Jésus est souverain. C'est lui qui prépare, c'est lui qui fait la mise en scène. Il est le directeur, il est littéralement le metteur en scène. Il dit, « Je m'en viens, attendez, voici le script. » on retourne dans les Écritures, on retourne dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, le prophète, 9:9. On lit ceci, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Jésus dit, « Attendez, attendez, on sort le script. On sort le script, il ne faut rien manquer. Il faut reproduire la scène, elle a été annoncée. » Oui, les gens ne comprennent pas en ce moment, mais bientôt, très bientôt, après ma résurrection, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, mes disciples vont comprendre. Jésus dit, « OK, on sort le script, comment ça se passe? Ça prend un âne, ça prend une ânesse, ça prend un ânon. » Parce que Jésus n'est pas un roi comme tous les rois, c'est un roi serviteur. C'est un roi serviteur. C'est un roi qui vient premièrement servir son peuple. Ce n'est pas un empereur qui abuse, ce n'est pas un empereur qui domine, ce n'est pas quelqu'un qui dirige par la terreur. C'est quelqu'un qui dirige avec grâce, en se donnant lui-même. Et donc, il va rentrer avec cette marque d'humilité. Mais c'est lui le metteur en scène. Jésus est souverain. Souverain roi, hein? C'est ça un souverain? Plénipotentiaire, il a tous les pouvoirs. Ce n'est pas un petit roi. Ce n'est pas un roi prétendu. Non, c'est celui qui est au contrôle de sa propre destinée. C'est lui qui s'offre volontairement. Il est au contrôle de la destinée de l'humanité. C'est Dieu le Fils. Dieu fait homme. C'est lui notre roi. Alors, lorsqu'on dit qu'il est souverain, oui, il est souverain comme un roi est un souverain. Mais tous les rois de la terre, c'est des pâles reflets de ce roi souverain qui préside à la destinée des hommes, qui est au contrôle de toutes choses et qui préside à sa propre destinée. Jésus s'assure que chaque détail de son entrée à Jérusalem reflète la parole de Dieu. C'est une démonstration de son contrôle total sur les événements, l'accomplissement des Écritures. Charles Haddon Spurgeon, qui a été appelé le prince des prédicateurs, dit ceci, « Notre Seigneur a toujours pris soin d'accomplir chaque prophétie de l'Écriture sainte. » C'est fascinant lorsque tu sais que Jésus accomplit la parole de Dieu, il accomplit sa parole, parce qu'ailleurs, Jean nous révèle qu'il est la parole de Dieu. Et donc, Jésus n'est pas seulement le metteur en scène, il est le scripteur. Il est celui qui a écrit le script parce qu'il est la parole de Dieu. Il est l'auteur de la vie. Qu'est-ce que ça devrait produire dans nos cœurs? Vous voyez, la foule ne saisit pas tout ce qui se passe. La foule est dans l'exaltation, tout ça. Mais nous, on vit après la mort, après la crucifixion, après le trouble des disciples qui ne comprennent rien, qui sont troublés, qui pensent que Jésus les a abandonnés. Nous, on vit après la résurrection. Mais retourner à des passages comme ceux-là alors qu'on commence la semaine 5, qu'est-ce que ça devrait produire dans nos cœurs? Une grande confiance dans la souveraineté de Jésus. Jésus sait ce qui doit se produire et Jésus fait que ça s'accomplisse. Amen? Jésus sait c'est quoi le script? C'est lui qui l'a écrit. Alors Jésus fait. Est-ce que ça devrait produire dans nos cœurs à nous, nous qui chantons Hosanna après la résurrection? On devrait prendre tous nos soucis, tous nos tracas, tout ce qui nous trouble, tous ces moments où on se comporte en fait comme les disciples au moment de la crucifixion qui fuient et qui disent « Aïe, aïe, ok, je pensais que j'avais un sauveur, mais il n'y a rien qui fonctionne. » Non, non, nous, on est après la résurrection. On sait que ces Hosanna-là sont justifiés. Jésus est au contrôle du script. On devrait prendre toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes, tous nos troubles et dire « Jésus sait, Jésus fait. Jésus sait ce qui est bon pour toi et moi. Jésus fait ce qui est bon. Jésus sait ce que Dieu veut pour l'humanité. Jésus fait. » Et dans ma vie, avec toutes mes inquiétudes, mes troubles, mes difficultés, Mon hosanna à moi devrait être éclairé par cette connaissance-là. Ce n'est pas simplement une émotion, une exaltation qui va disparaître. Non, il y a un fondement. Mes pieds sont appuyés sur un roc. J'ai la connaissance qu'il est le scripteur, qu'il est le metteur en scène, qu'il est l'acteur principal. Mon rôle à moi, c'est de chanter ses louanges. Alors même que j'ai l'impression que le script tourne mal, je dois me rappeler, non, c'est lui qui a écrit l'histoire. C'est lui l'auteur de l'histoire. C'est lui le metteur en scène. C'est lui l'acteur principal. Mon rôle à moi, c'est de chanter des louanges. Kevin Stouffer nous l'a très bien enseigné dimanche dernier. J'ai trouvé ça tellement éclairant sur l'importance de la louange. C'est tellement bon. Et donc, je dois prendre cette semaine, dans cette semaine sainte, je dois prendre mes soucis, mes fardeaux, mes lourdeurs, tous ces moments où j'aurais le goût de me comporter comme les disciples et juste me sauver. Vous savez, lorsque Jésus est crucifié, il dit, « OK, il n'y a plus rien qui fonctionne. » Il dit, « Non, mais moi, je connais la fin de l'histoire. Je connais le script au complet. Je sais que la résurrection s'en vient. » Les gens qui sont là, à ce moment-là, comprennent mal le salut que Jésus vient accomplir. C'est clair. La plupart des gens de la foule, on lit au verset 8 et 9, étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ces foules-là attendaient un libérateur politique. Ils sont remplis d'espoir. En fait, le passage se termine, Matthieu nous dit que la ville fut émue. Ça veut dire que la rumeur a couru partout dans la ville. Vous imaginez cette semaine-là? C'est comme une veille de soirée électorale. C'est vrai! Comme tout le monde est aux infos, qu'est-ce qui se passe, ça s'en va où, quelle direction ça va prendre? Est-ce que vous étiez là lorsque Jésus est entré? Ça circule, c'est un bruit qui court partout dans la ville. On a un sauveur, on va être délivré enfin, ça s'en vient. Mais la foule ne comprend pas que ce n'est pas un libérateur politique qui s'en vient. Il s'en vient nous sauver de quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que les êtres humains pourraient nous faire. Voyez-vous, notre adoration à nous cette semaine pendant la semaine sainte doit reposer sur une vraie connaissance de Jésus-Christ. Jésus est venu me sauver de moi-même, de mes péchés, premièrement, avant les péchés des autres, avant les décisions des autres. Jésus est venu me montrer qu'il y a un royaume plus grand que tous les royaumes des hommes. Et c'est son royaume à lui. Parce qu'il est roi dans mon cœur, dans mon âme et dans ma vie. Et cette semaine, je veux vous inviter à être dans la louange, alors que vous méditez sur la mort de Christ sur la croix, sur sa résurrection. Je veux vous inviter à être dans la louange. Si vous êtes chrétien comme moi, vous connaissez la fin de l'histoire. Non seulement la fin de l'histoire de cette semaine-là, mais la fin de l'histoire. Et donc peut-être que là vous dites, oui c'est beau, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, mais entre-temps on fait quoi? Mais on loue, on adore, on célèbre, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Et je n'ai pas à m'éprendre en attendant une libération essentielle de mes soucis maintenant. C'est correct de le demander à Dieu. Mais la vraie libération, c'est quand Christ revient. Là où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, que des hosanna. Que des hosanna. Deuxièmement, Jésus, le Messie véritable, la royauté du Fils de David. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David », parce qu'il avait été annoncé qu'un descendant du roi David, un roi plus grand que David, viendrait et régnerait et conduirait Israël. Et Jésus est vraiment ce roi. Ces acclamations qui sont faites là sont fondées. Sont fondées parce que Dieu accomplit ses desseins, même quand nous, on se méprend. Sont fondés parce que Jésus est vraiment le roi, même s'ils attendent une autre sorte de roi. Jésus est l'accomplissement de ces promesses messianiques de l'Ancien Testament. Ils reconnaissent en lui le descendant de David, ils veulent le célébrer. Et pourtant, c'est lui le roi. C'est intéressant, dans le passage, on voit Jésus qui se présente comme le roi. Il y a des figures dans l'Ancien Testament qui sont très fortes. Figure très forte, la royauté. La prophétie, le prophète, le prêtre. Et dans le passage ici, j'ai Jésus qui se présente comme le roi et qui est reconnu comme le prophète. Et très bientôt, quelques jours plus tard, on va voir le prêtre apparaître. Qui ne va pas offrir un agneau, qui va s'offrir comme agneau. Gardez ça à l'esprit cette semaine. Jésus est roi, prophète et prêtre. Parce que toutes ces figures-là représentent un seul véritable roi. Et donc, cette foule qui, à ce moment-là, spontanément, commence à l'adorer, commence à le célébrer, commence à reconnaître en lui un roi, en fait, va le rejeter. Mais nous savons qu'il est le vrai roi. Nous savons qu'il est le vrai roi. Et c'est ça qu'on est appelé à reconnaître. Cette semaine, ce que je veux faire, c'est reconnaître non seulement qu'il est souverain, mais qu'il est roi. Je veux plier le genou devant Christ. Là, certains d'entre vous vous dites, ça allait jusqu'ici, là, Yannick, il est souverain, je veux bien croire. Je serai attentif cette semaine sur sa souveraineté dans ma vie. Je vais voir sa main dans différentes choses. Mais roi sur moi, non. Et en fait, beaucoup de gens comprennent l'Évangile, mais refusent l'Évangile parce que l'orgueil de vouloir gouverner leur propre vie les empêche de plier le genou. Parce qu'ils pensent qu'ils sont de meilleurs gouverneurs pour leur propre vie que Jésus-Christ. Sincèrement, est-ce que tu penses que ta sagesse, ton intelligence, ton discernement est même un peu comparable à celui de Christ? Si tu crois cela, c'est que tu n'as jamais lu les Évangiles. Va lire les Évangiles. Va lire Matthieu. Regarde comment Jésus parle, regarde ce qu'il fait. Et viens me dire après, moi, je suis plus sage que Jésus-Christ. Non, mais sincèrement, viens me le dire. Dimanche, viens. Viens me voir, viens me dire. J'ai lu, il est correct, tu sais, mais j'ai trouvé mieux. Moi. Mais certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. Je ne dis pas ça avec mépris, hein. Jusqu'à ma conversion, c'est clairement c'est ça que je pensais, là. À 19 ans, j'ai dit, c'est correct, moi, je ne dirige plus ma vie. Je fléchis le genou, c'est toi qui es le roi. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était moi le gouverneur de ma vie. Et certains d'entre vous refusez de venir plier le genou devant Christ parce qu'au fond de vous-même, vous êtes convaincus que votre sagesse est supérieure à celle de Christ. Vous savez ce qui conduit au bonheur. Quand Jésus nous demande quelque chose, quand Jésus nous commande quelque chose, quand Jésus nous enseigne quelque chose, il y a infiniment plus de sagesse et de bonheur à le suivre et à plier le genou devant lui qu'à suivre notre propre jugement. Et c'est possible que ce soit là ton combat. Et tant aussi longtemps que tu vas continuer à t'entêter à dire, « Non, c'est moi qui est gouverneur de ma vie. Jésus, c'est à la carte. Jésus, c'est un feel-good Jesus. On va aller à l'église, c'est Pâques, ça fait du bien, on chante des louanges, il y a de la musique. C'est le fun, tu sais, des petits repas en famille, tout ça, c'est feel-good Jesus. Tant que Jésus ne sera pas ton roi, tu es en train d'affirmer que tu as plus de discernement que lui. Moi, je t'invite à prendre le temps cette semaine, aller lire les évangiles, lire l'évangile de Matthieu. Lire l'évangile de Marc, c'est bref, c'est court. Et juste répondre à cette question-là, est-ce que vraiment tu es plus sage que cette personne-là? Si vous me l'aviez demandé lorsque j'avais 17-18 ans, je vous aurais dit non. Mais tout dans ma vie disait que je croyais le contraire. Et des fois, on va dire, non, mais je sais qu'il est plus sage, mais je crois que pour être heureux, je dois faire ça. On est au Québec, hein? La plus grande quête des Québécois, c'est le bonheur. Vous allez me dire, c'est la quête de tous les êtres humains. Oui, c'est juste que pour nous, ça passe par le plaisir. Beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, je vois Dieu qui me dit, voici la sagesse, voici ce qui serait bien à faire, voici comment tu devrais marcher. Puis je dis, oui, mais ça, c'est pas le bonheur, ça, c'est la souffrance, ça, c'est l'obéissance, ça, c'est faire ce qui est bien. Ça serait bien, tu sais, si tu me donnais quelque chose d'aussi trippant, qui était en même temps bien, ça ferait mon affaire. Mais ta définition du bonheur est dans un plaisir momentané qui passe comme le vent, comme une vapeur. Je te dis, le vrai bonheur se trouve à fléchir le genou devant Christ et à suivre ses voies. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Et je te le dis, cher Québécois, qui dit, non, mais moi, c'est le plaisir immédiat qui compte. Ton plaisir est pauvre en bonheur. Parce qu'il est possible d'être profondément heureux en Dieu, même lorsque la vie va mal. C'est possible d'être profondément heureux en Dieu, même dans la louange, quand il y a de la souffrance dans ta vie. Et c'est un peu ça, apprendre à grandir dans la vie chrétienne. On vit dans un monde déchu, et donc, je pêche par moments, les gens autour de moi pêchent, on se fait du mal, on manque de respect à Dieu, on manque de respect aux autres, on se heurte les uns les autres, ça c'est la réalité. Mais quand tu as reconnu que Jésus est le Sauveur et qu'il est le Roi, tu apprends à évoluer comme dans deux dimensions parallèles en même temps. Et tu apprends à être profondément heureux, c'est le serment sur la montagne. Tu apprends à être profondément heureux alors même que parfois tu es en train de gémir, d'intercéder, de pleurer parce que tu vois de la souffrance autour de toi dans ta vie. Puis tu vois et tu dis, Seigneur, viens Seigneur, Hosanna. Viens, Seigneur. Je viens t'adorer parce que je suis en paix avec toi. Je connais la fin de l'histoire, Seigneur. C'est bon, Seigneur. Il est vraiment le Messie et possiblement que ce qui t'empêche de venir à lui, c'est que tu dis, non, j'ai plus de jugement que toi, oh Dieu. Et tu n'oserais pas le formuler comme ça, peut-être, mais je veux dire, à la fin, lorsque tu te dis que suivre ton propre jugement, c'est ça qui va te procurer le bonheur plutôt que de suivre Dieu, je veux dire, à la fin, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que tu as plus de discernement que Dieu. Et le dernier élément que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est cette expression « Hosanna ». « Hosanna » qui est un chant d'adoration. Et je ne sais pas si vous connaissez l'origine d'Hosanna, ce que ça signifie, mais c'est fascinant et ça va nous enseigner sur la louange. Ça va nous aider à entrer dans cette semaine. Verset 9, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et c'est un bon cri. C'est un bon chant. C'est un chant qui est juste. Ce chant-là, on le trouve dans le psaume 118, versets 25-26. Soyez bien attentifs. « Ô Éternel, accorde le salut. » Ça, c'est Hosanna. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna, ça veut dire celui qui sauve. Viens et sauve. Littéralement. Et donc, ce cri-là, à l'origine, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide qu'on lance à Dieu. Viens et sauve. Hosanna! Sauve! Ce qui est fascinant, c'est que dans l'histoire d'Israël, ce cri-là, cet appel à l'aide de Dieu, est devenu une parole d'adoration. C'est devenu une parole d'adoration. Et ça a beaucoup de sens quand tu réalises à qui on lance le cri. Lorsqu'on lance ce cri à Dieu, je me tourne vers celui qui est souverain, celui qui a écrit le script, celui qui est l'auteur, celui qui est le metteur en scène, celui qui est l'acteur principal. Je me tourne vers lui et je dis « Viens et sauve! » Et lorsque je prends du temps pour me tourner vers Dieu pour dire « Viens, c'est un appel à l'aide, Seigneur, viens et sauve! Hosanna! » Il y a un moment où la source de mon cri, la souffrance, là d'où ça vient, s'efface, disparaît, parce que mes yeux restent là à contempler celui à qui j'appelle à l'aide. Mes yeux sont tournés vers Dieu, pas vers les hommes, les êtres humains qui vont décevoir, pas vers moi-même, mes capacités limitées. Non, mon cri d'appel à l'aide, Hosanna, se tourne vers Dieu et dit, Dieu, toi, viens vers moi. Et lorsque je passe assez de temps à crier à Dieu pour avoir son secours, cet appel à l'aide se transforme en adoration. Parce que la source de ma souffrance qui m'a amené à me tourner vers Dieu disparaît, s'atténue dans mon cœur. Je suis en train de contempler celui de qui j'attends le secours. Il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est pour ça qu'on se tourne vers Dieu pour être secouru. Parce qu'à force de se tourner vers lui pour avoir le secours, ma souffrance elle-même s'atténue. Et je passe de l'appel à l'aide à l'adoration. Vous me suivez? Je passe de l'appel à l'aide, du cri de douleur légitime à l'adoration. Vois-tu, celui qui se tourne vers Dieu, qui va avec toute sa souffrance à Dieu, qui va dans des lamentations comme on le voit régulièrement dans les psaumes, et comme régulièrement dans les psaumes, termine ce temps de lamentation dans la louange, il n'est pas fou. C'est pas qu'il est insensé, c'est pas qu'il a perdu la bulle. Non, c'est qu'il contemple la source de toute délivrance. Celui qui est souverain, celui qui est l'auteur de la vie, celui qui est l'auteur de l'univers, le metteur en scène par excellence, celui qui a écrit le script, celui qui fait la mise en scène, celui qui est l'acteur principal. Et à un certain moment donné, cette souffrance-là que tu vis se transforme en adoration. C'est vraiment fascinant comme passage. Et malheureusement, pour ces gens-là, à ce moment-là, ils ne réalisent pas qu'ils attendent un sauveur politique. Ils vont être très déçus, mais la résurrection va suivre. C'est toujours Spurgeon qui dit « Les Hosanna peuvent être très bruyants, mais ils ne durent pas longtemps. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » sonne très doux, mais combien plus véhément sera bientôt le cri qu'il soit crucifié. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus est digne non seulement de nos acclamations, mais de notre adoration parce qu'il fait toute la mise en scène. En entrant ainsi dans la ville de Jérusalem, Jésus s'est assuré que les Romains se disent « il y a un trouble politique qui se prépare ». Parce que vous savez, lorsque Pilate va l'examiner, il va dire « mais qu'est-ce que je dois faire avec cet homme-là? C'est un juste. Je ne peux pas le crucifier. » Jésus s'est assuré que le trouble politique s'installe dans la ville. Les Romains n'auront pas le choix d'obtempérer et de le livrer pour qu'il soit crucifié. Pensez à ça. Jésus s'est assuré que la mise en scène soit entièrement accomplie. Les Romains n'auront pas le choix. Ils vont obtempérer, même si Pilate regarde à Jésus et dit, « Mais c'est un juste, pourquoi est-ce que je le crucifierais? » Il y a tellement de tensions dans la ville. La ville est émue. Il y a un trouble dans la ville. Il y a du murmure qui est là. Cette semaine, on va vous appeler toute la semaine à méditer, à louer Dieu, à amener vos soucis, à vous préparer pour ce vendredi saint où on va célébrer ensemble la crucifixion de Jésus-Christ et ce dimanche de Pâques où on va célébrer sa résurrection. Et ce Hosanna-là est un appel à l'adoration personnelle. C'est un appel à mettre de côté nos soucis et à venir devant Dieu. Ce cri de louange-là historique, les chrétiens le crient, le chantent dans toutes sortes de circonstances et leur souffrance se transforme en louange. Parce qu'il est digne. Parce qu'il est vraiment digne. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Le message de ce matin, c'est un appel à vous concentrer sur le royaume de Dieu. Jésus est le roi. Jésus est le roi, mais son royaume n'est pas de ce monde, et donc il est invisible. Le royaume de Dieu n'est jamais aussi visible que lorsque l'Église se rassemble pour chanter ses louanges. C'est le moment où le royaume invisible de Dieu jusqu'à son retour devient le plus visible. C'est lorsque l'Église est là, les uns pour les autres, et qu'on va, on apporte nos soucis, on va dans la prière, on chante des chants de louanges. Cette semaine, je vous lance un appel à mettre de côté vos soucis pour joindre vos voix à cette foule qui a crié « Hosanna ». Mettre de côté vos inquiétudes. Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je trouve ça vraiment fascinant. J'étais en train de me préparer pour le message, puis je dis « Quelle coïncidence pareil ». Mon épouse et moi, quand il y a des soirées électorales, là, c'est comme un Super Bowl. Je disais, honnêtement, tu sais, sortez le popcorn, c'est la, on aime ça. Pour de vrai, là, dès qu'on a les dates, on met ça dans notre agenda. Que ça aille bien ou que ça aille mal, pour nous, c'est comme si c'était un Super Bowl, cette affaire-là. Fait que là, Esther commence à m'envoyer les dates, puis elle dit, OK, les élections, c'est telle journée. Là, elle me dit, le débat, c'est telle journée. Oh. Je dis, chérie, le débat, c'est mercredi soir. On a une réunion de prière pour la semaine sainte. Ma femme qui aime le Seigneur a dit, OK, c'est bon, on va à la prière. On va à la prière. J'ai hâte de voir combien d'entre vous vont choisir le débat au lieu de la prière. Mercredi soir, je vous attends. On va être ici sur l'estrade. Ouf, ça va être difficile, hein? Pensez-vous que pour votre âme, la meilleure chose à faire, c'est d'être là à vous fâcher pendant 2 heures? Vous pourrez aller le faire après, hein? Je vais l'écouter, le débat, n'inquiétez-vous pas. Je vais avoir le droit aussi là, de me faire du mauvais sang, me fâcher, puis critiquer pendant 2 heures. Mais on va garder ça pour après la prière. Cette semaine, vous êtes appelés à penser au royaume de Dieu, pas au royaume de cette terre. Certains d'entre vous devriez enlever des applications de vos téléphones cette semaine, juste pour une semaine. Vous retournerez à vos soucis, vos inquiétudes, vos troubles après, d'accord? Mais cette semaine, certains d'entre vous devriez enlever des applications pour arrêter de suivre le cours de la bourse. Non, mais c'est correct de suivre où va mon économie. Les élections, c'est super important. Pour de vrai, c'est un devoir citoyen. Allez voter de grâce. Informez-vous. Faites-vous un jugement. Mais rappelez-vous que vous êtes chrétien avant tout. Votre royaume n'est pas de cette terre. Et certains d'entre vous devriez mettre de côté ces soucis-là. C'est correct, hein, de travailler fort, de placer, puis de... Tout ça, c'est correct. Mais la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Qui de vous, par vos soucis, par vos tracas, ça a descendu. Pensez-vous que vous influencez le cours de la bourse? Faites ça une fois par semaine, d'accord? Juste avant votre culte personnel. Puis là, vous partirez avec, Hosanna! Jusqu'à temps que ça se transforme en louange. Amen. Parce qu'il est digne. Il est digne de nos louanges. J'espère qu'on va vivre ça en Église cette semaine. Et si tu es là et tu dis, mais ils sont malades, ces gens-là, va lire les Évangiles avant de me dire que tu as plus de sagesse que Jésus. On s'en reparle cette semaine. On va prier. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. Quel privilège de pouvoir vivre cette semaine de Pâques ensemble. C'est une grâce, Seigneur. C'est une bénédiction que tu nous accordes oui, Seigneur, de prendre un grand respire et de laisser les soucis de cette vie, les élections, les tracas, toutes ces choses-là, mettre une pause sur tout ça pour se concentrer sur toi, Jésus. Quelle grâce, vraiment, t'es un metteur en scène extraordinaire. Tu prends soin de nous en plaçant la Pâque en plein, là. C'est parfait, Seigneur. C'est parfait. Tu étais souverain au moment de ta crucifixion, de ton entrée dans Jérusalem. Tu es souverain encore aujourd'hui sur l'histoire du Canada et de nos petites vies. Et Seigneur, je te prie de transformer nos hosannas, nos appels à l'aide, Seigneur, en adoration. Seigneur, que nous venions assez longtemps devant toi dans la louange et dans la prière pour que toute cette douleur, toutes ces inquiétudes, tous ces tracas, Seigneur, s'effacent pour un moment dans la contemplation de ta gloire et de ta majesté. Car tu es majestueux, Jésus, fils de David. Sois béni, Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.